voici la librairie francophone avec Emmanuel Kérad.
Les médias francophones publics.
Radio France. RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone Nouvelle Formule. C'est une formule confinée et raisonnée pour ces circonstances particulières, mais nous sommes avec vous et nous allons vous faire voyager avec des reportages et aussi des invités. Nous irons à Port-au-Prince avec les écrivaines Yannick Lins du Collège de France et Émilie Prophète. Entretien en liaison avec Haïti et reportage sur place dans le quartier de Pétionville. Nous serons avec Jean-Jacques Benex pour parler de son premier roman paru en février chez Michel Lafon, une histoire de rupture qui pointe la solitude sentimentale, mais aussi la mondialisation et un monde culturel et économique perverti. Notre nouvelle séquence qui donne la parole à un éditeur avec le conseil d'un roman classique de sa maison d'édition. Aujourd'hui, rendez-vous avec Pascal Assatiani des éditions du Boréal au Québec. Et puis un autre voyage, direction Genève, au bord du lac Léman, avec Métis Narditi, entretien en déambulation et visite d'un grand hôtel, un palace chargé d'histoire.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont bien sûr avec nous. Avant de les rejoindre, un mot suite aux réactions de certains libraires français qui ont été mécontents d'entendre des initiatives de libraires, nous accusant même parfois avec virulence de contourner le confinement. Alors personne dans la librairie francophone n'incite à contourner le confinement, bien sûr. Il est essentiel et vital de respecter les consignes établies par chaque pays. Cette émission, vous le savez, soutient les libraires indépendants haut et fort depuis 14 ans maintenant. Nous nous sommes toujours tenus à leur côté. C'est pourquoi quand nous avons repris la production, nous avons voulu faire au mieux et donner d'abord la parole aux libraires. Alors toutes les librairies sont fermées. Certaines ont décidé de ne pas faire de vente à distance et de ne pas prendre de commandes. D'autres tentent de continuer à entretenir le lien avec leurs clients. C'est dans cet esprit et à la condition de mesures sanitaires strictes que nous relayons ces initiatives dans le respect de la loi et des mesures de précautions actuelles. On part à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, tout de suite avec Mathieu Colombe de la librairie Goulard. Bonjour Mathieu.
Et bonjour Emmanuel.
Alors Mathieu, votre librairie est fermée et comme certains de vos collègues dont je parlais, il n'est pas question de vendre le moindre livre. Vous êtes contre les initiatives en ce sens?
Oui, effectivement, avec de nombreux collègues, on estime qu'à l'heure actuelle, les règles sanitaires en France, enfin en tous les cas l'état sanitaire de la France, ne nous permet pas de prendre ce risque, notamment par rapport à un accès à un test de dépistage de la maladie, l'absence d'un traitement vraiment pérenne. On estime qu'en fait, le jeu n'en vaut pas la chandelle et que, hélas, il faut faire ce sacrifice. D'autant plus que c'est un risque dans le cadre de grosses structures comme la mienne qu'on ne veut pas faire prendre, par exemple, à nos salariés et encore moins à nos clients.
D'accord. Donc, pas de vente, rien du tout. Est-ce que vous comprenez quand même que certaines petites librairies dans certaines petites villes, voire des villages ou des libraires qui sont seuls à tenir leur boutique puissent essayer de garder le contact avec le client?
Ah oui, tout à fait. On ne jette la pierre à personne et on comprend parfaitement que certains confrères soient complètement acculés et n'aient pas le choix. Mais c'est vrai que nous, on estime que, en tous les cas, nous, en tant que chef d'entreprise, on n'est pas en droit d'imposer ça, comme je vous le dis, ni à nos salariés, et de ne pas faire prendre de risques à nos clients.
Voilà, le message est passé avec un grand débat, effectivement, en ce moment en France, sur l'ouverture, la rouverture aussi des librairies et leur façon de continuer à travailler ou pas en ce moment. Merci beaucoup, Mathieu Colombe. Merci à vous.
Merci à vous, Emmanuel. À bientôt.
À Remiremont, en Lorraine, toujours en France, on rejoint Charlotte Tordy de la librairie Lire et Écrire. Bonjour, Charlotte.
Bonjour, Emmanuel.
Alors vous, vous avez décidé de continuer à garder un lien avec vos clients. Vous faites passer les commandes de livres grâce à la camionnette des fermiers. Racontez-nous comment ça se passe.
Alors, déjà, la librairie est devenue un petit peu itinérante juste avant le confinement, quand on a eu la décision gouvernementale de fermer tous les commerces, y compris les librairies. J'ai envoyé des messages à tous mes amis, à tous mes proches, pour leur proposer de leur fournir des livres, parce que je voulais qu'ils ne soient pas complètement démunis, qu'ils aient de quoi tenir un siège. Et parmi les personnes que j'avais contactées, il y avait Hélène, qui tient la camionnette des fermiers. Donc, c'est un concept de collecte de produits fermiers locaux, donc des fruits, des légumes, de la farine, de la bière artisanale, etc., qui sont constitués en paniers, qui sont livrés chaque semaine. Et elle et moi, on se connaît depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on avait eu cette idée-là déjà d'associer les livres avec ces produits il y a quasiment un an de ça. Et puis, ça ne s'était pas fait par manque de temps. Et là, par la force des choses, on s'est dit que là, c'était l'occasion de se lancer.
Voilà, c'est une belle idée, en tout cas, d'associer les besoins alimentaires et les besoins culturels. Et comme ça, on limite le plus possible ses déplacements aussi, puisque quand on va acheter ses légumes, on a des livres au passage, pas de déplacements supplémentaires, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Donc, ça fait des paniers qui nourrissent le corps et l'esprit.
Bon, merci beaucoup, Charlotte. Merci à vous.
Il y a pas de quoi. Merci à vous.
La librairie Lire et Écrire, c'est en Lorraine. À très bientôt, Charlotte. En Belgique, c'est Déborah Damblon de la librairie La Licorne à Bruxelles qui est avec nous. Bonjour, Déborah.
Bonjour, Emmanuel.
Au Canada, Josiane Letourneau est libraire à Montréal dans la librairie du Square. Bonjour, Josiane.
Bonjour, Emmanuel.
On vous a entendu la semaine dernière, toutes les deux, sur vos initiatives. Et pour la Suisse, on ne l'a pas entendu, elle. C'est le retour de Yasmina Jacquinto de la librairie Baobab à Martigny. Bonjour, Yasmina.
Bonjour.
Alors, votre librairie est fermée, comme toutes les librairies, mais vous continuez à être en contact avec vos clients. Comment faites-vous, vous ?
Je me suis beaucoup posé la question de garder ce contact ou pas. Et puis, je me suis dit qu'on était aussi pourvoyeur d'un bien-être, d'un mieux-être dans ce moment un peu difficile de la distanciation sociale. Et j'ai choisi, grâce à mon site internet, de continuer de livrer les gens à vélo, avec mon vélo électrique, et puis aussi déposer mes livres dans cette fameuse boîte à lait que nous avons ici en Suisse.
Eh oui, la boîte à lait dont on parlait la semaine dernière. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast ou balado-diffusion si vous voulez en savoir plus sur cette boîte à lait. Merci Yasmina, merci d'être avec nous toutes les trois. Si vous êtes libraire et si vous voulez nous parler d'une initiative positive, contactez-nous par le biais des réseaux sociaux Facebook et Twitter, Emmanuel Kérad. Avant de partir en Haïti, rejoindre Yannick Lahens sur place, puis entendre un reportage dans Port-au-Prince, voici le son de la francophonie, une nouveauté musicale qui vous fait découvrir la musique qui est numéro 1 en ce moment dans un pays francophone. Cap sur le Sénégal aujourd'hui avec le collectif Daan Corona emmené par Youssou N'Dour qui est numéro 1 partout avec ce titre à vocation humanitaire sur cette crise du Covid-19. Di fi wale andun dun dal bunu lalay yen halel reuni ni la ko tege wa e kayle ni xexli man na fi tamee sona ni corona bi worona fi baña ñew lembena aduna ji nango xex mu baña law fajaru fagaru raxasu te baña jaxaso bo su bobi musiba sax duñ ko fatte di ko jangoro bu melni bi ku ne di xex ci aduna kon ci aduna ñu tok ci geur ge bandu yo ci moy ku kenn ko bari ge bañu ray corona t'aurais pu être sauveur de l'humanité sans tous ces morts. Le fait de plomber nos économies font partie de tes torts, mais à part ça les familles se retrouvent, on respire cool, la médecine est la star.
Wax nañ ma son waye taxul ñu bay bay de jey te moy tu jotay toga se keur bay met me wax leen li ñu digle ñu dum ci tay
halel rewmi ni la ko bege wow
e kayle ni xexli man na fi jogi.
C'était Daan Corona, musique francophone numéro 1 au Sénégal en ce moment, avec de nombreux artistes autour de Youssou N'Dour. Et bonjour Yannick Lahens.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être dans cette librairie francophone nouvelle formule et inédite en cette période compliquée. Vous êtes à Port-au-Prince, comment allez-vous d'abord Yannick? Comment ça se passe en Haïti là?
Écoutez, je vais bien, mais en Haïti, avec les conditions que vous savez, le confinement est très compliqué parce qu'il y a des gens qui vivent au jour le jour. C'est assez compliqué. Et la densité de population, les gens sont à plusieurs dans des petites pièces. Donc c'est compliqué sur Port-au-Prince et sur les grandes villes d'ailleurs.
Oui, avec la promiscuité et puis il y a beaucoup de pauvreté à Port-au-Prince. Vous êtes une écrivaine reconnue à travers la francophonie, prix Femina en 2014 pour Bain de Lune, première titulaire de la chaire du monde francophone au Collège de France, et dans votre recueil de nouvelles, L'oiseau Parker dans la nuit, qui vient d'ailleurs de paraître en poche chez Point, vous racontez la vie en Haïti avec toutes ses composantes. Comment les Haïtiens vivent aujourd'hui avec les contraintes actuelles? Est-ce qu'il y a toujours ce foisonnement, ce frémissement dans la ville?
Écoutez, un peu moins quand même, mais je dois vous dire que beaucoup de gens, jusqu'à présent, ne croient pas à l'existence de ce virus, tout simplement parce que ce sont le gouvernement, les décideurs politiques qui l'ont annoncé. Et comme ils ne font pas confiance, ils pensent encore que c'est une entourloupette pour obtenir de l'argent et sur leur dos.
Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on en parlait ensemble. On s'était rencontrés à Port-au-Prince pour un grand entretien et vous me parliez justement de cette défiance vis-à-vis de la politique. Et aujourd'hui, en Haïti, quand on lance des lois ou quand on lance des mesures de précaution, eh bien effectivement, comme il y a cette défiance-là, c'est difficile de mobiliser les citoyens.
Tout à fait, tout à fait. Parce que il a été possible de le faire quand il y a eu l'épidémie de choléra, qui a donné d'excellents résultats, parce que les gens avaient confiance. Et d'autant plus que pendant qu'on leur demande de se confiner, il y a des bureaux qui distribuent les nouvelles cartes électorales pour les prochaines élections, et les gens sont comme des sardines dans une boîte de conserve.
Ah oui.
Où on est l'un contre l'autre.
Ouais, souvent les élections passent au-dessus des mesures sanitaires. Les Français l'ont d'ailleurs vu en début de cette période-là. Nous étions donc rencontrés à Port-au-Prince. Vous vous souvenez de ce moment-là? Vous avez une anecdote, un souvenir, Yannick Lahens?
Ah ben, tout à fait. Qui montre bien les contradictions d'Haïti, c'est que nous étions tout près de chez moi, dans une brasserie qui s'appelle le Quartier Latin, qui rappelle une brasserie de n'importe quelle métropole occidentale. Et puis, il y avait la place derrière le mur où on entendait toutes sortes de choses, grouillant de monde. Et c'est l'autre Haïti, à côté, l'un à côté de l'autre, l'apartheid et la promiscuité. C'est assez un mélange qui rappelle d'ailleurs comme c'était pendant la colonie, je suppose.
Oui, c'est ça, des lieux privilégiés qui côtoient des lieux très populaires.
Exactement.
Bon, nous étions ensuite allés dans Pétionville avec une autre auteure, Emily Prophète, qui elle aussi raconte la vie haïtienne dans Un ailleurs à soi, paru chez Mémoire d'Encrier. Voici un extrait de ce reportage, c'était dans la librairie francophone en 2019. On part ensemble en Haïti. Merci Yannick Lahens, merci beaucoup.
Je vous remercie.
À bientôt. Dans les rues de Pétionville, donc, avec Emily Prophète dans cette librairie francophone en Haïti. Bonjour Emily Prophète.
Et bonjour Emmanuel, bienvenue en Haïti.
Merci beaucoup, on est ravis d'être ici, ça fait des années qu'on en parle,
oui.
Des années qu'on se dit qu'on va venir en Haïti, et grâce à l'Institut français, grâce au Pape Jazz Festival aussi, nous sommes là. Et puis la rue foisonnante, vibrante, très généreuse et très 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 animée.
Ben c'est très chaotique et ça sent l'urine aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est bien que les auditeurs sachent un petit peu ce que nous voyons, ce que nous respirons.
Oui, bien sûr.
C'est très chaotique comme ville. En fait, je pense que les pouvoirs locaux sont dépassés. Il y a beaucoup de véhicules de tout type, des motocyclettes, des voitures de transport en commun que nous appelons des camionnettes, et dont l'organisation est totalement laissée à ceux qui prennent l'initiative d'organiser le transport en commun. Donc c'est très très chaotique. Là on est à Pétionville. Pétionville, avant le tremblement de terre, était différent, parce que quand la ville s'est retrouvée complètement détruite, beaucoup de gens sont montés à Pétionville, notamment les commerçants, et Pétionville en moins de 10 ans est devenue une ville commerçante totalement.
On entend juste derrière les générateurs. Parce qu'en Haïti, il faut le savoir, à Port-au-Prince notamment, il y a de gros problèmes d'électricité. L'électricité est rationnée.
Il y a d'énormes problèmes d'électricité. La semaine dernière, on restait quasiment une semaine sans jamais voir le courant de ville. Et là, tout le monde s'organise. Tout le monde a des générateurs, des batteries qu'on appelle des inverteurs ici. C'est des onduleurs qui emmagasinent l'énergie. Et puis, quand il n'y a pas de courant de ville, là, on peut avoir des ampoules et même la télévision et aussi des panneaux solaires. Mais c'est partout comme ça. Donc, la ville est très, très, très bruyante. Et vous voyez, ce sont de très, très grosses machines.
Ah oui, énormes, bleues, immenses.
Il y a deux
immense.
Grosses machines bleues, immenses. Donc, tout ça, ça fait un bruit énorme, énorme.
On va aller dans un parc, une place juste à côté qui s'appelle la place Boyer. C'est juste en face, face à ce restaurant, avec Emily Prophète dans la librairie francophone cette semaine, ici en Haïti, à Pétionville. On va essayer de traverser cette rue.
Voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent y passer du temps parce que comme il y a beaucoup de chômage, donc les gens ils viennent s'asseoir sur la place. Vous voyez, ça fait passer le temps, ils discutent principalement de politique, ils ont des petits négoces, ils vendent de l'eau, de la nourriture aussi. Voilà, il y a un camion ici qui vend de la nourriture.
Ouais. Et là, de l'entrée, alors on est à un carrefour, hein, c'est pour ça que vous entendez tout ce bruit autour avec... Les rues qui se croisent, beaucoup de motos, on circule beaucoup à deux roues ici à Port-au-Prince.
Ah ben j'espère que les auditeurs pourront nous entendre parce que c'est vraiment très très bruyant.
Oui, alors si on nous entend, par où on rentre? C'est en haut au-dessus.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
Ici Radio-Canada première.
RTBF la première.
France Inter.
Alors, tous les camelots qui sont là autour de nous avec des bananes, des œufs durs.
Oui, des bananes, des œufs durs, il y a des scieurs de chaussures.
Vous mangez ici parfois, Emily?
Non, jamais. Non.
Parce que les conditions sanitaires sont un peu limites.
Hein. Voilà, un peu limites quand même.
On va dire ça. Voilà, on va entrer sur cette place Boyer. On va quitter un peu la route, tous ces camions qui passent.
Haïti est un pays vulnérable aux menaces naturelles multiples, mais pas que. C'est un pays très très fragile et très fragilisé. Nous avons de très gros problèmes environnementaux. Et quand il pleut, vous avez des trombes d'eau qui arrivent de la montagne avec énormément de plastique, toutes sortes de fatras, même les plages. Il y a plein de plastique sur les plages, il y a plein de plastique partout. Donc c'est ça Port-au-Prince aussi, c'est une ville qui est en train de mourir, d'étouffer. Et on ne voit pas venir les décisions qui pourraient changer les choses, parce que nous vivons une instabilité politique constante où plus on a d'élections, plus il y a d'efforts qui sont faits pour arriver à une forme de démocratie à l'occidentale, plus ça ne marche pas, parce que c'est des combats permanents, comme on dit ici, des chirépites, des crépages de chignon, et on n'y arrive pas. Donc Port-au-Prince, c'est ça aussi, c'est une ville qui étouffe.
C'est toujours Isaac mensonge qui empêche nous avancer. Pour exister, on te dit des bagailles qui pas exister. Faut qu'on stoppe. Hémorragie, son maladie. Faut qu'on stoppe.
On va s'avancer un petit peu, Emily Prophète, avec un très grand terrain de basket.
Basket, oui, oui.
Qui est bien entretenu d'ailleurs, hein, qui est pas mal conçu avec des jeunes qui jouent évidemment. On va aller sur le terrain de basket, tiens. Il y a la mer partout ici, puisque évidemment c'est une île.
Oui, c'est une île.
Alors, du coup, la mer, on a l'impression que cette eau-là, elle régénère. Elle lave les âmes. Mais comme vous le disiez, la mer est polluée, donc notamment on ne s'y baigne pas. Donc le rapport qu'on a à la mer, contrairement à toutes les villes de bord de mer, est radicalement différent ici.
Le rapport est très 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 différent. Si vous allez en province, voyez sur toute la côte, les maisons donnent dos à la mer. Les gens ne regardent pas la mer, ils préfèrent regarder la route. On voit la mer, mais les gens ont un rapport difficile avec la mer. Ils ne s'y baignent pas, la mer est une poubelle. Malgré le fait qu'Haïti soit une île et qu'il y a énormément d'eau aussi.
Face à Haïti, il y a Miami, ville sans âme, pas faite pour les francophones, dites-vous. La Floride avec une liaison quotidienne en avion d'ailleurs. Et vous parlez de ces Haïtiens qui, je cite, « habitent le pays à reculons ».
Voilà, oui, et c'est même là l'un des problèmes majeurs de ce pays. Il n'y a pas d'élite dans ce pays. Il n'y a pas d'élite parce que les gens, déjà depuis près de 30 ans, les gens qui ont un minimum de moyens vont accoucher et vont faire leurs enfants là-bas. Donc ça veut dire dans les prochaines années, tous ceux qui auront eu accès à l'éducation, par exemple, ils auront un passeport étranger. Donc c'est un pays que l'on habite à reculons parce que le rêve de tout le monde est de partir. Et du jeudi au dimanche soir ou au lundi, ils sont à Miami. Et ils investissent à Miami aussi.
On a ces enfants qui jouent au football là, juste voilà. À côté de nous. C'est l'avenir, évidemment, d'Haïti. Juste au-dessus, sur les gradins de ce terrain de basket, on a des étudiants.
Voilà. Voilà. Oui.
Les étudiants qui étudient au soleil, c'est plutôt beau à voir d'ailleurs.
Quand on parle d'Haïti et on dit que c'est la culture qui est sa force, les gens ont raison. Ici, les gens sont preneurs. Vous mettez un poète là sur la place publique, vous allez avoir 200 personnes tranquilles à écouter le poète. C'est quand même extraordinaire. Ils voudraient avoir accès à cette culture, à cette éducation.
Merci beaucoup, Emily Prophète.
Ça me fait très plaisir et ça me fait plaisir d'avoir la Grande Librairie francophone sur une place à Pétionville.
Exactement.
Voilà, dans aussi. Le bruit ambiant. Oui, oui. Voilà, j'aurais cru jusqu'à hier que c'était impossible.
Merci, à très bientôt.
À très bientôt.
On quitte Port-au-Prince, mais le grand voyage francophone continue avec Jean-Jacques Benex et la musique d'Izia en duo avec Jeanne Haddad. Tout de suite, merci à vous d'écouter la Librairie francophone à travers le monde. C'était Izia avec Jeanne Haddad, chevauchée.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Le réalisateur Jean-Jacques Benex vient de publier son premier roman, Toboggan, est sorti en librairie quelques jours avant le confinement général, publié chez Michel Lafon. Une histoire d'amour qui se termine, la chute d'un homme, mais aussi la chute d'un monde et d'un système mondialisé. Bonjour Jean-Jacques Benex.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être dans la librairie francophone, nouvelle formule confinée. Comment allez-vous et où êtes-vous en ce moment tout d'abord?
Bon, je suis chez moi, devant ma télévision éteinte, sur mon canapé. C'est en général le lieu sur lequel je navigue en permanence.
Oui, c'est un peu ça. Bon, on va parler de votre livre, Jean-Jacques. Votre personnage sort d'une histoire d'amour. Selon lui, sa dernière histoire. Solène l'a quitté. Ils avaient une grosse différence d'âge. Et lui sait qu'il a vieilli. On ne peut pas vivre une histoire toute sa vie avec une femme de 27 ans plus jeune, Jean-Jacques.
C'est un risque qu'on prend chaque fois que c'est pas nouveau comme configuration matrimoniale, des vieux qui sont avec des jeunes, mais on se pose toujours la question, est-ce que ça va durer? Quand on est un peu fou, on se lance là-dedans. De toute manière, on croise une femme et puis des fois ça part et on se pose les questions après, mais c'est trop tard.
Ouais, comme sur un toboggan, en fait, il va glisser, votre personnage. Il verra son ex refaire sa vie à New York, s'exposer comme ça sur les réseaux sociaux, ce qui va pas lui plaire. Il va aussi tomber malade et il s'enferme. Il s'enferme dans sa rupture et dans sa maladie.
Oui, il ressasse. En même temps, je crois qu'il s'y préparait. En fait, ce livre, c'est une réflexion sur le fait de réaliser qu'on est mortel. L'amour, c'est la dynamique absolue, hein. Et puis, quand l'amour est parti, qu'est-ce qui reste? Il reste l'horizon du toboggan, hein. Ça descend. Mmh.
Et pourtant, votre personnage, c'est un homme qui a été un grand artiste, un producteur de films aussi. Il a arrêté depuis longtemps, il a arrêté depuis trop longtemps le cinéma, Jean-Jacques Benex.
Non, c'est une autre page de ma vie. Je crois que j'avais besoin de base un peu pour étayer mon personnage, donc c'était plus facile d'avoir cette réflexion, mais c'est surtout quelqu'un qui réfléchit sur l'âge.
Vous avez parlé de vous là, mais je parlais de votre personnage. Je vous demandais si votre personnage avait arrêté trop longtemps.
Oui, le personnage a arrêté depuis trop longtemps pour recommencer, oui.
Et vous aussi, vous avez arrêté depuis trop longtemps, Jean-Jacques Benex.
Oui, certainement, mais disons que j'en ai fait mon deuil.
Mais pourquoi ne faites-vous plus de films pour le cinéma depuis 2001?
Parce que aujourd'hui, on n'a pas besoin d'artistes et on a besoin de maîtres d'œuvre. Et puis sans doute que j'ai plus rien à dire dans cette formule. J'ai eu envie d'écrire depuis des années. À force d'écrire des scénarios, l'envie d'écrire un roman était très forte. D'ailleurs, j'ai écrit des souvenirs. Je revendique maintenant ce statut d'écrivain. Il n'y a que les lecteurs qui peuvent me réfuter.
Ouais. Vous écrivez « Les procédures industrielles avaient rattrapé le cinéma. Entre les ligues de vertu, le formatage et l'autocensure, il ne restait plus beaucoup de place à l'artiste véritable. » Est-ce que ça veut dire que vous ne pourriez plus faire Diva ou 37.2 le matin aujourd'hui?
Ah, certainement pas. Et d'ailleurs, il y a plein de films qui ne se ferait pas, soit parce que les commanditaires n'auraient pas envie de les faire, ils les jugeraient trop disruptifs ou tout ce que vous voulez, soit parce qu'il y aurait l'autocensure. C'est pour ça que la littérature permet encore tous les excès.
Ouais. Bon, on va laisser la parole à nos libraires, Jean-Jacques Benex. Trois ont lu votre roman en Suisse, en Belgique et au Canada. Et on commence par Déborah Damblon, qui est en Belgique. C'est à vous, Déborah.
Eh bien, moi, en lisant votre livre, j'ai vraiment eu la même impression que quand j'ai découvert certains de vos films. Vous voyez, une espèce d'évidence comme ça, face à un sujet qui pourtant ne me passionne pas forcément. Vous avez vraiment un don pour me concerner, et vous le faites comme ça, avec élégance, avec sans complaisance justement, et vous arrivez à donner de l'amplitude au récit malgré un sujet qui aurait pu sembler étroit. Alors je trouve que c'est un excellent livre pour le confinement, parce qu'il est épais, parce qu'il fait réfléchir, et puis au fond parce qu'il permet de relativiser.
Mais c'est bien.
Josiane Letourneau, pour le Canada, vous êtes un peu plus mitigée, vous.
Ben oui, j'ai malheureusement au départ eu du mal à me laisser émouvoir par ce personnage vieillissant qui, en pleine rupture amoureuse, parle davantage de son âge et de sa peur d'affronter seul le reste de sa vie que de la douleur vive causée par la rupture. Même si j'apprécie l'humour, hein, les coups de gueule et l'immense passion qui font vibrer le narrateur, je pense que je me suis un petit peu perdue dans la multitude des épisodes de cette histoire. Mais pour le meilleur et pour le pire, le personnage est d'une transparence sans compromis et c'est probablement cette vulnérabilité enfin avouée qui en fait le véritable intérêt de ce roman.
Yasmina Giaquinto, en Suisse, que voulez-vous dire à Jean-Jacques Benex?
Ah, vous êtes ce fabuleux architecte de l'histoire très intime que vous racontez. Vous savez montrer les lieux et faire sentir les odeurs. Mais ce qui m'a manqué dans votre roman, c'est une dimension où j'aurais pu y trouver une place. Je n'ai pas su lire autre chose que la plainte et la tristesse de cet homme blessé. Et ce qui m'a dérangée au final, c'est de m'être sentie voyeuse.
C'est vrai qu'il y a un petit côté voyeur, Jean-Jacques. Car on a l'impression que vous vous êtes inspiré de votre propre vie et que vous confiez des choses sur vous l'air de rien.
Ah, alors oui, mais c'est compliqué ça, parce que il y a probablement, évidemment, on met de soi dans un livre peut-être que la transposition n'a pas été parfaite. Ça marche visiblement pour certains. Et pour d'autres, ça marche moins. Vous avez ouvert la fenêtre du confiné. Donc, et puis non, c'est bien d'entendre des points de vue de gens qui sont des professionnels et qui disent les choses sincèrement. Puis en plus, ils sont pas parisiens, quoi.
Bon, il y a dans ce livre, en tout cas, une critique sous-jacente du monde actuel et de la mondialisation. Plein de choses sont très intéressantes dans votre roman, Jean-Jacques Benex. Vous osez dire les choses, la culture et l'industrie du cinéma, on en parlait, mais plus largement sur l'état du monde. Vous évoquez la cupidité des humains et le système engendré. Vous montrez des humains comme étant impuissants à inventer des lendemains, au-delà, je cite, de leurs désirs immédiats, incapables de penser à autre chose qu'à leur abyssal nombril et à leur monstrueuse richesse.
On y est pile poil en ce moment. Et ce qui est fabuleux, c'est de voir à quel point cette pandémie met en exergue ces défauts tragiques. Je crois pas que ça va changer. Je crois qu'on est dans une sorte de course en avant, de folie où on n'arrive pas à arrêter, à se retrouver. Et je crois que l'art a été bouffé par l'industrie, la tête des artistes est mise à prix. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que le personnage qui monopolise le plus de débats en ce moment, c'est un médecin qui fait pas comme les autres. Vous voyez ? Et qui est hors des circuits. On se dit, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Il y a des machines industrielles qui ne peuvent pas s'arrêter, parce que quand elles s'arrêtent, elles tombent. Or, notre monde est en train de tomber en ce moment. C'est ça que je ressens. Quand en plus de ça, vous êtes quitté par la femme qui vous tient debout, ben vous tombez.
Eh oui, c'est ça l'histoire de votre roman en fait. Eh oui, c'est exactement ça. C'est un monde qui tombe, c'est un monde qui glisse sur le toboggan. Le toboggan, c'est le titre de votre roman. Et effectivement, en même temps que le monde glisse, votre personnage glisse parce qu'il perd l'amour de sa vie en quelque sorte. Et puis il y a des moments subtils dans ce roman aussi. Vous parlez du deuil, vous parlez des regrets de ne pas s'être assez parlé, d'avoir toujours reporté de dire les choses. Vous montrez aussi qu'il faut dire à ceux qu'on aime qu'on les aime, quitte à être un peu impudique. Il faut dire ça à nos proches.
Oui, mais c'est ce qu'on se dit souvent quand on perd quelqu'un. Or, on est là, on vit en ce moment un moment critique où cette question risque de se poser à chaque instant. Quelqu'un décède aujourd'hui, on ne peut même pas aller l'enterrer ou aller lui dire au revoir. Mais en même temps, chaque fois que quelqu'un meurt, souvent vous entendez « Ah, j'aurais dû lui dire, ah, si j'avais su ». Donc ça pose la question du deuil, c'est aussi un roman sur le deuil.
Et puis votre narrateur dit avoir aimé toute sa vie les instants. Il y a la notion d'instant. La vie est faite d'instants fugaces. Prendre un apéro, voir un coucher de soleil, apprécier un petit moment de la vie au cours de la journée. C'est d'ailleurs peut-être ce que le confinement va nous apprendre, ça. Apprécier les petits instants de la vie.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. Finalement, quand les grandes causes, on s'aperçoit avec l'âge que... elles sont très incertaines, que les illusions, elles s'éteignent comme des lampions à l'aube. Ce qui reste, c'est les petits instants, ces petits instants qui font, au fond, une qualité de vie et probablement aussi la qualité d'une relation dans un couple.
Ouais. Bon, merci beaucoup Jean-Jacques Benex. Merci infiniment pour cet entretien à distance. On essaiera de faire quelque chose ensemble de visu quand on quittera ce confinement. Je vous promets qu'on essaiera cet été, on fera quelque chose ensemble et on vivra un petit instant ensemble, d'accord ?
Ok, super. Portez-vous bien bon. Et faites attention.
Faites attention à vous. Toboggan est paru chez Michel Lafon. Soyez prudents et vigilants, Jean-Jacques. À très bientôt. Au revoir, Jean-Jacques Benex. Merci.
Au revoir.
Avant de rejoindre l'éditeur québécois Pascal Assatiani et d'aller dans un palace suisse pour notre second grand voyage, voici une nouveauté musicale qui réunit le groupe britannique Gorillaz et la chanteuse malienne Fatoumata Diawara. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde. C'était le groupe Gorillaz de Damon Albarn avec Fatoumata Diawara. Désolé, c'est le titre dans la librairie francophone. Chaque semaine, nous donnons la parole à un éditeur. La librairie francophone renoue le lien avec la chaîne du livre, les libraires, les lecteurs, les auteurs et donc les éditeurs. Bonjour Pascal Assatiani.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes directeur général des éditions du Boréal, l'une des plus grandes maisons d'édition canadiennes francophones. Éditeur de Dany Laferrière, Marie-Claire Blais, Robert Lalonde ou encore Serge Bouchard. Comment ça se passe en ce moment pour vous, Pascal ? Comme les éditeurs en Europe francophone, je suppose que Boréal est à l'arrêt ?
Écoutez, oui, on est dans une époque un peu surréaliste. Depuis le 23 mars, tout s'est arrêté au Québec. Donc les librairies ont fermé, les distributeurs fonctionnent au ralenti pour fournir les ventes en ligne et servir les ventes numériques, mais tout est à l'arrêt et le marché du livre a fondu d'à peu près 80% depuis cette date-là.
Alors quel est le risque en ce moment pour les auteurs québécois qui devaient sortir un livre, Pascal Assatiani?
Ben, écoutez, il y a deux niveaux de risque. D'une part, il y a le niveau des ventes déjà effectuées qui ne sont pas payées, parce qu'effectivement les libraires ne peuvent plus, ils sont même pas dans leur librairie, ils ne peuvent pas payer. Mmh. Et ensuite, il y a le niveau des ventes qui ne s'effectuent plus et des livres qui ne paraissent plus. Donc, on s'est aperçu qu'on n'était pas des animateurs culturels, c'est-à-dire on n'a pas choisi de mettre sur nos plateformes des blogs, des discussions, des lectures pour animer la scène culturelle par le web. On a plutôt décidé de s'enfermer chez nous pour travailler en silence et préparer le post-confinement.
Alors justement, les éditeurs français envisagent de réduire les sorties de la prochaine rentrée littéraire de septembre pour permettre aux livres qui n'ont pas pu sortir en ce printemps d'être décalés. C'est peut-être ce qui va se passer aussi au Québec.
Ah ben oui, on peut pas à la fois faire la sortie du printemps et la sortie de l'automne en même temps. J'ose espérer qu'on recommencera peut-être au début du mois de mai. Mais vous savez, avant que les gens reprennent l'habitude d'aller dans les librairies, la peur est là, l'autre est devenu un danger. Donc c'est évident que le programme va être ralenti. On va se concerter avec nos collègues pour ne pas embouteiller les librairies. Parce qu'évidemment, les librairies vont avoir un gros problème. Il est important que la chaîne au complet continue, parce que n'importe quel maillon qui craquera entraînera tout le monde dans des problèmes majeurs. Il faut que l'auteur puisse continuer à travailler avec son éditeur, qu'il travaille avec son distributeur et les libraires. C'est crucial.
Ouais, c'est crucial, et effectivement, il faudra respecter les mesures sanitaires liées au déconfinement. Mais il ne faudra pas oublier ces libraires et de prendre la vie le plus normalement possible, avec les restrictions évidemment, mais il faudra soutenir notamment les libraires indépendants. On vous a demandé, Pascal Assatiani, de choisir un classique de votre maison d'édition en cette période compliquée, un peu de positif, un peu d'air aussi. Quel livre publié par les éditions du Boréal conseillez-vous de lire ou de relire alors?
Écoutez, je ne suggère aucun titre en particulier, mais je suggère deux auteurs. Vous voyez, je déborde votre demande. Je pense qu'il y a l'œuvre d'un auteur qui s'appelle Gabrielle Roy, une romancière du XXe siècle, puisqu'elle est morte en 83, et qui a une œuvre extraordinaire dont les titres les plus connus sont « Bonheur d'occasion »,« Ces enfants de ma vie »,« La petite poule d'eau ». Et cette femme était elle venait d'un milieu assez simple de l'ouest du Canada et a obtenu le prix féminin en 1947 pour Bonheur d'occasion. C'était la littérature sur les gens humbles, les gens, les quartiers populaires de Montréal essentiellement, qui s'appelle Saint-Henri, que vous connaissez, je pense, Emmanuel. Oui. Et c'est une littérature d'une écriture très classique, mais absolument fascinante. Et l'autre auteur que je recommande particulièrement, il a été publié au Boréal, mais il a été coédité en France par les éditions du Sous-Sol, c'est Mordecai Richler, qui est un fantastique écrivain montréalais, anglophone, juif, un imprécateur, quelqu'un qui est un provocateur extraordinaire, mais avec un talent fou, et dans lequel on retrouve le Montréal multiculturel qui existait avant le confinement.
Merci beaucoup, Pascal Assatiani.
Ben, Emmanuel, bienvenue et on se reverra après le déconfinement.
Le plus tôt possible. Merci, Pascal, d'être intervenu à distance dans la librairie francophone. Faites attention à vous et aussi à vos auteurs. Soyez bienveillants, mais je sais que vous l'êtes. À bientôt, Pascal.
Merci beaucoup.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS, la première.
Ici, à Radio-Canada, première.
RTBF, la première.
France Inter.
Et un autre voyage dans cette émission avec une escale à Genève avec Metin Arditi, écrivain suisse d'origine turque qui a écrit de nombreux romans. Il est aussi l'auteur du récent Dictionnaire amoureux de l'esprit français. Le jet d'eau qui est face à nous, sur ce quai du Mont Blanc, ici à Genève. Avec plein d'oiseaux autour de nous, il y a plein de moineaux, plein de canards aussi. Bonjour Metin Arditi.
Bonjour Emmanuel Kerad.
Comment allez-vous?
Ah, ça va très bien. Ravi de vous voir à Genève une fois.
Oh, on vient souvent. Vous avez choisi cet endroit, Métine. Alors, on connaît évidemment le lac Léman, on connaît évidemment le quai du Mont-Blanc, le fameux jet d'eau qui est face à nous, et tout autour de nous, qui borde le lac finalement, plein d'hôtels.
Oui, c'est vrai, les hôtels sont très importants, à la fois pour des raisons liées à mon enfance et aussi parce que leur empreinte est telle que je passe une grande partie de ma vie dans des hôtels. J'ai grandi en internat, en Suisse, au bord du lac Léman du reste. À une époque où mes parents étaient en Turquie, la distance entre la Suisse et la Turquie était beaucoup plus grande que celle qu'elle est aujourd'hui. Il n'y avait pas de téléphone. Je passais toutes mes vacances en internat, à l'exception d'un des deux mois d'été. Et là, je ne rentrais pas en Turquie. Ma mère venait, me prenait et m'amenait pendant 4 semaines dans un bel hôtel. En France, en Suisse, en Italie, chaque année. Les hôtels sont restés pour moi des lieux de tendresse.
Des lieux de tendresse que l'on retrouve dans vos romans. On va entrer dans l'un d'entre eux qui est un hôtel mythique. Je parlais du jet d'eau là, que l'on voit là face à nous dans le soleil de Genève, avec ce jet d'eau qui a été installé en 1891 pour les 600 ans de la Confédération helvétique. Mais quelques années avant, en 1865, le 13 avril, on ouvre cet hôtel-là, qui est juste en face, Metin Arditi, qui est célèbre. Et voilà. C'est le Beau Rivage.
C'est l'hôtel Beau Rivage de Genève. Il y en a un autre qui porte le même nom à Lausanne, un autre encore à Neuchâtel. Mais celui de Genève a une particularité, c'est que depuis sa création, il est géré, il appartient à une même famille, les Maillères. C'est resté un hôtel qui est à la fois un grand palace, un hôtel de luxe, et à la fois une sorte de pension de famille par l'atmosphère qui y règne. Et c'est un lieu où je vais très souvent. Je m'installe au bar et j'écris là-bas, comme ce que j'étais en train de le faire quand vous êtes venu tout à l'heure. Voilà.
Allons voir alors ce bar et d'autres éléments de l'hôtel, des éléments historiques, plein d'histoires aussi, parce que de nombreuses personnalités ont séjourné dans cet hôtel, y ont fait escale, dont une célèbre impératrice. Et puis vous, Metin Arditi.
Ben voilà, absolument. Enfin, contrairement à elle, pour l'instant, personne ne m'a assassiné.
Non, non. Mais Sissi a été assassinée juste à côté.
Ici même,
où on est,
et
sur le quai.
Elle a eu son dernier soupir dans sa chambre. On l'a transportée à l'hôtel. Et là, elle est morte à l'hôtel.
Poignardée par un extrémiste italien.
Voilà.
Alors, on va traverser. Cet hôtel fait un angle avec une autre rue. Les drapeaux suisses autour. Hein.
Voilà, c'est la Genève carte postale.
Oui, c'est ça. On va parler de l'esprit suisse, d'ailleurs, avec vous, Metin Arditi, puisque vous avez publié cette année le dictionnaire amoureux de l'esprit français. Et l'esprit suisse, ici à Genève, c'est en partie, justement, cet hôtel. Alors, on traverse. Allons-y.
Attends.
Oui, c'est vrai, c'est rouge. J'ai déjà pris une amende. Allons-y, le bonhomme est vert, c'est parti. Parce qu'ici, en Suisse, on fait très attention à ne pas traverser quand on n'a pas la priorité.
C'est mal vu.
Voilà, l'hôtel Beau Rivage, avec une entrée presque discrète, hein, c'est vrai.
Bonjour. L'esprit suisse s'incarne assez bien dans un palace.
Une petite fontaine avec plein de pétales de rose. Alors Richard Wagner a séjourné ici, l'impératrice Elisabeth d'Autriche, on le disait, la fameuse ici impératrice, qui occupe avec sa cour 17 chambres. À chaque fois qu'elle vient ici, elle se fait assassiner, donc sur le quai où on était tout à l'heure. Il y a un petit musée qui rappelle sa mémoire et une suite. On va les visiter ensemble, Metin Arditi.
Oui, avec grand plaisir.
Allons-y. On a une jeune femme de l'hôtel qui nous guide.
Donc nous nous retrouvons dans la suite de l'impératrice Sissi où carrément elle séjournait quand elle venait à Beau Rivage Genève.
Alors ce qui est très drôle, Metin Arditi, c'est que cette suite elle est exactement au-dessus de la table du bar autour de laquelle vous vous installez parce que c'est exactement la même vue mais avec un étage en plus.
Exactement, c'est là une forme de rotonde. C'est pas souvent que l'on trouve dans un hôtel une chambre qui a une forme octogonale, si on poursuivait sa géographie, et qui a une vue absolument magnifique sur le lac, le petit lac, le jet d'eau, la rive gauche de Genève.
Un hôtel qui a inspiré aussi des grandes personnalités. Eleanor Roosevelt, par exemple, y aurait élaboré la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle fait partie évidemment du comité d'écriture et elle a cette idée-là, finalement, dans cet hôtel. On dit dans son bain, paraît-il. Alors c'est peut-être la légende, mais en tout cas, il y a peut-être un rôle, il y a peut-être une inspiration très forte ici qui a permis d'établir cette déclaration. Et on va aller dans un autre endroit avec un salon en bois de citronnier, paraît-il magnifique. Et notre guide va nous dire quelle est l'histoire de cette pièce qui craque dans tous les sens et qui résonne tout particulièrement.
Donc nous appelons, c'est le salon Masaryk. Et donc c'est le traité de la République de la Tchécoslovaquie qui a été signé ici. C'est en hommage à ce traité que ce salon est nommé.
Bon, à sortir de cette pièce, on va retrouver une autre pièce pour conclure. Vous entendez là le bois qui craque.
Nous allons dans la suite Jean Cocteau.
Allons-y, suite avec plaisir. Et Jean Cocteau, chambre 525. Ah oui, alors avec une vue magnifique sur tout le lac Léman. Métinarditi, on croise dans votre livre Jean-Jacques Rousseau. Le plus suisse des Français et le plus français des Suisses. Oui. Et vous dites que Rousseau a grandi loin des bras. Ça me rappelle l'un de vos romans, ça, Loin des bras.
Vaguement, oui, c'est le titre d'un roman. C'est vrai qu'il a grandi loin des bras et il a passé sa vie à rechercher des bras. C'est en général ce qui se passe.
Comme vous ?
Un petit peu. Voilà.
Bon, merci beaucoup, Métinarditi.
Merci à vous, Emmanuel Kérad.
Pour cette escale ici, donc, à Genève, à l'hôtel Beau Rivage, votre dictionnaire amoureux de l'esprit français est paru en coédition chez Plon et Grasset et vous préparez un nouveau roman.
Oui.
Paraît-il.
Exact.
Parfait. Bon travail donc ici. Hein.
Je viens ici. Oui, voilà. Exactement.
Merci beaucoup, Métine. À bientôt. Merci, mademoiselle. On termine cette émission avec la chronique des libraires, avec les coups de gueule et les coups de cœur pour conclure. Un coup de gueule en Belgique, Déborah Damblon ?
Oui, oui, Emmanuel, et un fameux, parce que on vient d'avoir une communication gouvernementale, vous savez, tout le monde en a pour le moment, et pour aider les Belges à supporter la situation, la ministre, enfin le Conseil des ministres, a décidé de rouvrir les jardineries et les magasins de bricolage. Alors c'est pas ça, moi j'aime les fleurs, mais on réfléchirait pas aussi à rouvrir un petit peu les librairies, parce que quand même, les livres ça peut aussi aider à tenir le coup. Tout le monde n'a pas un jardin. Hein.
Ça c'est clair, tout le monde n'a pas un jardin, je confirme. Merci beaucoup Déborah, merci pour ce coup de gueule. Josiane Letourneau au Canada, un coup de gueule ou un coup de cœur vous ?
Ben, je sais que j'ai déjà fait un coup de gueule sur l'acharnement de la clientèle à demander de la lecture légère, mais pour vous prouver que je suis pas bornée, je vous fais un coup de cœur sur un livre savoureux et franchement drôle, La lutte de Mathieu Poulain aux éditions de Tamar. Alors ce roman, loin d'être une prise de tête, nous raconte le combat mené par un groupe de lutteurs pour se doter d'un syndicat avec à leur tête un grand flambeau qui leur sert de porte-parole sous le nom évocateur de Professeur Douleur. Alors, c'est vraiment habile dans l'art de se propulser dans l'arène narrative entre comédie, psychologie et roman social. L'auteur déploie tout ce qu'il faut pour nous faire rire sans jamais faire de compromis sur l'intelligence de sa plume. C'est un livre qui ne se lâche pas et certainement une de mes lectures les plus amusantes de confinement.
La lutte aux éditions Ta Mère, c'est ça?
La lutte aux éditions de Ta Mère, oui.
Ah, de Ta Mère, oui, ça va mieux. Qu'est-ce que c'est que cette maison d'édition?
Ben, c'est une maison relativement jeune, en fait, qui publie des livres assez punchés, je dirais.
D'accord. Bon, on va retenir ça, c'est facile en plus. Et les éditions de Ta Mère au Québec. Merci, Josiane. Enfin, Yasmina Jacquinto en Suisse, un coup de gueule.
Oui, un coup de gueule, mais qui finit finalement bien. Vous savez, en temps normal, il est assez difficile pour nous libraires d'avoir la garantie qu'un communiqué de presse soit relié dans la presse écrite ou orale. Et en plein Covid-19, la seule actualité, c'est justement le Covid-19. Du coup, la presse manque de contenu, alors les journalistes se souviennent de nous. Emmanuel, je vous ai dit que ce n'était pas qu'un coup de gueule. En effet, plusieurs médias nous ont approchés pour nous mettre en lumière et faire des capsules vidéo. Et du coup, comme vous le faites si bien dans la librairie francophone, il est important de valoriser le plus possible les librairies indépendantes. Les rédactions ont entendu notre appel. Et je me dis que, et si ce ralentissement du monde n'était pas le fruit d'un renouveau tant attendu et enfin envisageable ?
Eh oui, il faut soutenir les librairies indépendantes et ne pas attendre les crises comme celle-ci. En tout cas, un mal pour un bien, comme on dit. Et on est aux côtés des libraires, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Yasmina. Une pensée pour terminer pour Luis Sepúlveda, grand écrivain chilien, qui est mort cette semaine à l'âge de 70 ans du Covid-19. J'ai eu la chance de l'interviewer lors d'un grand salon du livre. C'était un homme exceptionnel. Voilà, grande pensée pour Luis Sepúlveda. Merci à toutes les trois. Au revoir à toutes, à très bientôt donc.
Au revoir Emmanuel.
À bientôt. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Alexandre Chenet. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France et l'implication de la direction de France Inter. Jean-Marie Félix en Suisse pour la RTS. René Miquils en Belgique pour la RTBF. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin pour Radio-Canada. À la semaine prochaine pour un nouveau grand voyage francophone et des invités toujours confinés à travers le monde. Merci d'être fidèles à la librairie francophone. L'émission est toujours numéro 1 en France selon les dernières mesures d'audience, de très loin d'ailleurs devant les autres radios généralistes concurrentes. Merci infiniment. Faites attention à vous surtout. Bon week-end à tous. Et on conclut cette édition avec notre hommage à Christophe, disparu jeudi soir, avec une musique que nous avons choisie pour vous. Voici Les Marionnettes, titre de 1965, qui fut numéro 1 des hit-parades de l'époque en France et en Belgique.
Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère,
la rediffusion de la librairie francophone, c'est à minuit désormais. À suivre 2 heures consacrées à Christophe avec une rediffusion d'un grand entretien de Rebecca Manzoni et un concert enregistré à Radio France. Hommage à Christophe dans quelques minutes.